tous. Donc de mon côté, je vais présenter quelque chose en fait qui n'est absolument pas considéré comme un résultat finalisé ou ferme et définitif, mais beaucoup plus un processus en cours. En fait, un point issu d'un travail de recherche qui a été mené il y a quelques années maintenant et que j'ai aussi réutilisé dans ma thèse, et qui en fait, je voudrais simplement commencer à dégager quelques linéaments et profiter en fait de cette occasion justement de rencontre pour espérer susciter une discussion autour de ça et faire avancer une notion en germe que je trouve particulièrement intéressante, qui est celle de quotidien de l'autre. Alors, à l'origine de cette notion, d'une certaine façon, ou plutôt de cette idée, l'idée d'un quotidien d'un autre, un quotidien des autres, il y a une expérience, méthodologique qui procède d'un partage de l'ambiance. Et cette expérience, en fait, était celle de la réalisation de tables rondes d'écoute, où il s'agissait de confronter des différentes personnes à des extraits sonores, donc à les mettre face à des ambiances sonores pour provoquer la discussion. Et le cadre, en fait, histoire de préciser cela, était international et aussi pluridisciplinaire, c'est-à-dire que des chercheurs d'origines disciplinaires différentes et de pays différents ont été mis en relation à des extraits sonores en provenance, enregistrés dans les transports urbains, provenant de différents pays du monde. Et l'objectif à la base était de qualifier les voyages urbains en plan sonore, donc en profitant de cette richesse culturelle et interculturelle et internationale. En creux est apparue précisément la description quotidien, quasiment comme un effet collatéral de la méthode. Alors, sans m'apesantir plus sur le processus méthodologique, mais plus m'attarder sur les choses qui s'en dégagent, je précise simplement que un nombre beaucoup plus important d'extraits que ceux que je vais traiter aujourd'hui a été diffusé. On va s'intéresser, pour travailler cette idée de quotidien de l'autre en tout cas, à deux extraits sonores donc, qui étaient, au cours de cette recherche-là, un trajet en métro parisien, remarquable par l'ambiance du métro parisien d'une certaine façon, mais surtout une conversation féminine, et puis un trajet dans le tramway de Varsovie, remarquable au plan des interactions et en tout cas de ce qui se passe en termes d'ambiance, sur le fait qu'il était occupé par un ensemble de jeunes garçons, le tramway, je veux dire, hein, de lycéens qui rentraient du lycée et qui donc d'une certaine façon pour faire sa égalité, je dirais, à l'environnement sonore. Aussi, pour vous mettre dans l'ambiance et partager cette expérience-là, je trouve intéressant de diffuser un de ces deux extraits. On n'a pas le temps malheureusement pour écouter les deux. Mais en tout cas, pour précisément avancer sur cette idée de quotidien de l'autre, je crois qu'on va commencer, et je reviendrai après d'ailleurs là-dessus, mais sur la carte du dépaysement, d'une certaine façon, et je fais l'hypothèse qu'il y a certainement plus de personnes ici qui connaissent le métro Paris que le tramway de Varsovie. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Mais donc, je vous propose d'écouter 2 minutes du tramway de Varsovie, de cet extrait-là, et de revenir par la suite, précisément, sur les éléments qui permettent de qualifier cette idée de quotidien de l'autre et de voir aussi en quoi elle se distingue de ce qu'on peut appeler quotidien et dans une mesure plus large, l'ordinaire qui est quand même un sujet ou un thème de travail sur lequel la plupart de nos recherches se consacrent d'une façon ou d'une autre le plus souvent.
Thank you.
Comment qualifier cet extrait ou comment, d'une certaine façon, on retrouve une idée de quotidien à travers ce qu'on vient d'entendre. Je vais commencer par... je n'ai pas précisé, en fait, il y a des différentes équipes de recherche, différents pays qui ont été confrontés à ces extraits sonores. Et ça a été fait pays par pays. Donc il y a eu des tables rondes réalisées en Pologne, en Allemagne, en France, au Brésil. Et si on se réfère à ce que dit l'équipe polonaise par rapport à cet extrait sonore, on remarque qu'en fait, d'une certaine façon, on se situe dans un discours relativement indiciel, hein, ils savent très très bien décrire la plupart des signaux sonores qu'ils entendent, ils qualifient très précisément le type de tramway, ils qualifient très précisément le lieu, et puis ils ne sont pas très sûrs sur l'heure d'une certaine façon, mais à côté de ça, pour eux, évidemment, c'est leur situation ordinaire, ils connaissent très bien tout ça. Ils font quand même dégager une première idée qui est celle de familiarité. Donc, quand on s'intéresse, quand on est proche ou pas du quotidien, en quoi l'ambiance est familière déjà. Et eux, ils vivent cette ambiance comme une ambiance familière parce qu'ils sont en mesure de reconnaître le langage employé par ces lycéens, qui est un langage plutôt boursier et aussi assez. Voilà, ils sont dans une situation assez enjouée, et simplement c'est ça qui leur donne en tout cas ce côté familier de l'ambiance. Familier qui est partagé, en fait, un côté familier de l'ambiance qui est partagé aussi par l'équipe française qui entend cet extrait-là, et par l'équipe allemande, mais plus dans la sensation de dire bon, bah, c'est détendu d'une certaine façon, la situation a l'air de tout se passe bien, les gens parlent à voix haute. Un autre point qui émerge de cette table ronde, c'est une sensation, on pourrait dire au plan sonore, de déjà-vu. Donc je marque déjà-oui. C'est-à-dire, d'une certaine façon, tout est très proche de son quotidien. C'est un type de tramway qu'on connaît, c'est les tramways Alstom qu'on trouve dans toutes les villes d'Europe maintenant, quasiment. Le matériel roulant, les sons sont connus. Et en même temps, tout est différent. L'annonce, le sonal, la langue parlée, bien évidemment. L'équipe brésilienne enquêtée va même jusqu'à ce qu'est-ce qu'il y a proposé une ville, et nous dit qu'il s'agit bien d'un tramway. À Bonne. On pourrait dire d'une certaine façon que le quotidien de l'autre ici est un quotidien ou un trajet en tramway d'Europe continentale. Alors, si on se risque à qualifier ça en termes d'ambiance, hein, comme je vous disais, il s'agissait, pour l'instant, je tire simplement quelques linéaments très très basiques. On remarque dans les deux cas que pour l'ensemble des équipes, il n'y a pas de dépaysement. En tout cas, pour les équipes européennes, ils ne vivent pas de dépaysement face à l'extrait. L'équipe brésilienne enquêtée, qui connaît aussi par ailleurs, par les gens voyagés, connaissent aussi l'Europe, sensation déjà connue, déjà vue, déjà oui. On pourrait dire que le quotidien de l'autre, ici, se situe à un niveau, qui est celui qu'on pourrait qualifier de transposition. Transposition de son vécu dans un autre cadre. Et cette idée de transposition, je la trouve intéressante parce qu'on pourrait. La raccrocher en fait au langage musical. En musique, c'est quoi transposer? C'est prendre finalement la partition telle qu'elle est et simplement la déplacer. On la met un peu plus haut, un peu plus bas. Mais on change finalement pas la nature du cadre de référence, on le déplace simplement dans ses degrés. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que d'une certaine façon, tout le monde pourrait se dire je me sens là, je connais cette expérience-là, je l'ai déjà faite, mais en fait non. Voilà. Premier point, simplement, concernant le quotidien de l'autre, est-ce que c'est suffisant ou voilà, transposition. Aussi, d'où vient cette transposition, c'est-à-dire, est-ce que c'est l'extrait sonore diffusé qui provoque ça, la réception de cet extrait-là, ou bien est-ce que c'est le protocole, cette méthodologie qui, d'une certaine façon, induit la transposition à la mise à distance. Alors, pour explorer cette question-là, on va s'intéresser maintenant à l'autre fragment dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était le fragment parisien, cette conversation ordinaire dans le métro. Et puis, finalement, noter qu'en dépit de réceptions relativement équivoques d'extraits entre des personnes qui qualifient une cacophonie et d'autres qui parlent d'un montage, d'une composition remarquable, on a affaire à deux focalisations principales, ce qu'on pourrait appeler deux lignes sonores d'une certaine façon, qui sont concomitantes, l'une passant parfois devant l'autre, l'autre prenant plus d'importance, mais les deux sont toujours là. Premièrement, les sons mécaniques, et là il s'agit des sons du métro parisien. On peut dire qu'il y a une focalisation là-dessus, et qu'il y a, je vous dis qu'il n'y a pas de dépaysement vis-à-vis de ça, dans la mesure où en fait on a un discours qualificatif des signaux sonores extrêmement précis. Et donc à partir de ce moment-là, quand on rentre déjà dans la matière sonore, sans même s'interroger sur ce qu'on est en train d'entendre, c'est que d'une certaine façon, on est déjà en prise immédiate avec ce qui est donné en temps. La seconde chose, le second point de focalisation, c'est cette conversation, qui continue, on pourrait dire, quasiment de manière nécessaire, c'est-à-dire elle continue coûte que coûte. Peu importe l'environnement, peu importe ce qui advient, il faut juste qu'elle ait lieu. Elle est plus forte que le reste. Et donc du coup, quoi, quand on a ces deux focalisations, on pourrait dire qu'elles viennent au service de l'expérience, mais de la part des personnes qui font le partage de cette ambiance proposée, de l'ordinaire de la situation. Premièrement, donc, comme je le disais, les sons mécaniques sont connus et identifiés, identifiables également. On en vient à qualifier les sources très précisément, le déroulement de l'événement aussi. Et la conversation, ce qu'on remarque, c'est qu'elle se situe d'une certaine façon en adéquation avec l'ambiance. Et là, il y a un point que je trouve important, c'est que les équipes qui parlaient français, c'est-à-dire essentiellement l'équipe brésilienne et l'équipe française, remarquent que la conversation se situe dans un rapport de jeu, dans un rapport de composition vis-à-vis de l'environnement sonore. La voix monte, la voix baisse, etc. Mais il y a un dispositif pratique qui est mis en place de la part des protagonistes pour faire continuer leur conversation. Et si les équipes allemandes ou polonaises ne parlent pas nécessairement français au moment de l'écoute, elles remarquent également que, en tout cas, il y a une forme d'insistance vocale. La conversation est là, et même quand le son du métro passe par-dessus la voix, et bien à partir du moment où cette intensité la redescend, et bien la voix est toujours présente, donc on se dit qu'elle a tout fait pour continuer. Alors est-ce que ça vient nous qualifier une ambiance de trajet ordinaire en métro? Je ne suis pas complètement certain, on pourrait dire qu'une ambiance ordinaire de trajet en métro procède de ces éléments-là. En tout cas, il y a quand même deux choses. Premièrement, ce qu'on pourrait appeler l'ordinaire du contexte. Un contexte connu, identifié, clairement défini et surtout, d'une certaine façon, clairement verbalisable. Deuxièmement, ce que je trouve particulièrement intéressant au niveau de la question des pratiques, c'est ce qu'on pourrait appeler une quotidienneté pratique, c'est-à-dire l'incorporation, la prise au corps de la part des protagonistes de cet environnement comme un environnement d'action. Et je trouve que donc là, on se situe, à mon avis, sur la qualification précisément d'un rapport spécifiquement quotidien à l'ambiance qui est vécue dans cet extrait-là, dans la mesure où on sent que les femmes ne sont pas en train de forcer pour parler. Elles parlent simplement parce qu'elles savent le faire. Et je ne sais pas si vous avez fait l'expérience en venant depuis l'hôtel jusqu'à ici, du métro de Rio. En ce qui me concerne, on se rend bien compte qu'il est difficile de parler dans le métro de Rio. Il est particulièrement sonore. Toujours est-il que, est-ce que les cariocas parlent nous, moi en tout cas, je fais usage d'effets de créneau par exemple. C'est-à-dire il y a des moments où ça devient, l'environnement sonore est tellement important qu'on arrête de parler parce qu'on sait qu'on ne pourra pas être entendu et que soi-même, on va devoir tellement insister sur sa voix qu'on n'aura plus de voix quand on va sortir. Donc, si j'avais cette maîtrise-là du métro de Rio, je pourrais dire d'une certaine façon, c'est mon quotidien, c'est mon ambiance quotidienne. Alors que précisément, ce n'est pas le cas. Et là, je pourrais dire, même dans le métro de Rio, en faisant cette expérience-là, je suis face au quotidien des cariocas. Mais je ne suis pas dedans dans la mesure où je ne suis pas en mesure d'en faire usage. Alors, ça m'emmène finalement sur une proposition par rapport à le premier linéament qui était dégagé tout à l'heure concernant le quotidien de l'autre, en disant qu'il s'agit d'une transposition de son expérience dans un autre cadre. Et je me réfère à la proposition de Stanley Cavell, mais qui est aussi présente de manière assez diffuse dans la littérature, chez Thoreau ou même dans la psychanalyse. C'était l'idée de dire d'une certaine façon, son quotidien, c'est-à-dire ça c'est mon quotidien, c'est familier, ou l'idée de familiarité dans l'étrangeté, c'est-à-dire c'est le quotidien de l'autre, je le reconnais, mais en même temps il est différent, renverrait à ce qu'on pourrait appeler, donc ce que Cavell appelle, l'inquiétante étrangeté de l'ordinaire. Alors pourquoi précisément cette idée-là, la familiarité dans l'étrangeté? On s'y reconnaît, mais on n'est pas tout à fait dedans, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait. Je pense que ça se situe là. C'est simplement donc un point de départ, à mon avis, pour lancer des pistes de débat, des pistes de réflexion, des pistes d'analyse pour des choses à venir. Je trouve néanmoins que cette idée de quotidien de l'autre, abordée comme cette dimension inquiétante de l'ordinaire, me semble particulièrement opératoire dans la mesure où il rend manifeste l'incorporation et la compréhension sensible du quotidien. Le quotidien, quand on se réfère au dictionnaire Robert, par exemple, il s'agit on a une définition qui est quasiment computationnelle. On pourrait dire que le quotidien, c'est une répétition sur une base temporelle journalière d'un ensemble d'activités ou d'événements. Alors on sait très bien que c'est particulièrement opératoire de considérer le quotidien de cette manière-là, par exemple pour les gestionnaires de flux qui s'intéressent aux mouvements urbains, qui vont nous parler de leur creuse et de leur plaine, et donc si on s'intéresse maintenant au plan sensible de ces actions, de la répétition de ces actions-là, et à mon avis dans un dispositif méthodologique qui décale précisément ce rapport au quotidien, on fait introduire, je crois, l'ambiance de manière complètement évidente à l'intérieur de la notion de quotidien. Et en tout cas, c'est le point sur lequel j'ai envie de m'arrêter pour l'instant et sur lequel j'espère qu'on pourra débattre ensemble.